Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne pour le 8e numéro de l'émission Histoire d'Outre-Manche. Élie à la technique et Frédéric, votre animateur. Dans le numéro précédent, nous avons plongé dans le Londres des années 90. Je vous ai surtout présenté la famille Andrews, de charmantes personnes qui m'ont accueilli et m'ont fait découvrir la ville de Londres et l'ambiance familiale anglaise. Dans ce numéro et le suivant, nous découvrirons Londres au XXIe siècle. Carnet de voyage. Émotion assurée. Revoir Londres 30 ans après, c'est évidemment un moment magique. Allez, on y va? Vous êtes prêts? En route, ladies and gentlemen. Août 2025, moment intense. Je vais rejoindre cette ville de Londres que j'affectionne tout particulièrement. La période des préparatifs du voyage a largement suscité l'envie irrésistible de retourner dans la capitale anglaise. Un sac à dos flambant neuf, une organisation administrative et logistique bien calée, des précautions prises. Sac à dos flambant neuf, oui. Car la valise n'est pas de mise quand on part pour Londres. Les stations de métro ne sont pas particulièrement bien accessibles aux personnes en situation de handicap. Il vaut mieux avoir les mains libres pour tenir la rampe des nombreux escaliers et même plus encore face aux escalators qui ne font pas semblant d'aller vite. Une organisation administrative et logistique importante, oui, car le passeport et l'autorisation électronique de voyage sont obligatoires. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne depuis le Brexit. Des précautions prises, oui, car il est plus simple d'acheter une baguette de pain que de trouver un bon pot d'orthésiste de nos jours. D'ailleurs, c'est drôle car en 1990, je partais à Swansea au Pays de Galles sans savoir qui allait m'aider à mettre mes chaussures orthopédiques le lendemain matin. Les chaussures étaient à lacets. Et en 2025, je suis parti avec deux paires de chaussures, dont l'une est quasi impossible à enfiler, erreur de conception et de fabrication, et l'autre est déjà bien usée, au point de me demander si elle allait tenir. Bref, il ne faut rien négliger quand on part en voyage dans de telles conditions. 5 août au matin, me voici à bord du TGV pour Paris-Gare de Lyon. Arrivé dans la capitale, je rejoins mon amie stéphanoise Muriel. Elle est du voyage. Et nous rejoignons alors la gare du Nord par le RER D. Ah, le RER parisien. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je crois me souvenir que les Jeux paralympiques ont été organisés à Paris l'été 2024, n'est-ce pas? Eh bien, pour sortir de la rame du train à la gare du Nord, il y avait une marche très haute à gravir. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Autant dire que sans l'aide bienveillante de Muriel, je serais peut-être encore dans le train au vu du poids de mon sac à dos. Nous voici à l'embarquement Gare du Nord. La tension est palpable. La veille, Eurostar était en carafe. On nous fait avancer d'un pas militaire pour accéder au train. Ça ne rigole pas et il n'y a pas de place pour les rêveurs. Notre train commence à se mouvoir en direction de London St. Pancras Station. Thank you. Je prends le train sous la Manche pour la première fois. Mon amie Sophie, que je veux chaleureusement remercier pour ses précieux conseils, a entretenu le suspense et a contribué à me faire imaginer un récit digne d'un conte sur la fameuse traversée du Channel Tunnel. Alors voilà, le train chasserait l'eau de la mer de part et d'autre des wagons pour avancer. Des poissons viendraient faire coucou aux vitres. Pire encore, il ne serait pas exclu que des requins exaspérés par le passage incessant des Eurostars aient quelques velléités à en découdre avec notre train. En particulier, car trop, c'est trop. De surcroît, la veille du départ, je suis informé de gros problèmes de circulation sous la Manche. Aussi, lorsque le chef de train nous promet une expérience hors du commun, affirme avec emphase que nous allons vivre un moment unique et inoubliable dans le tunnel sous la Manche, je me dis avec fébrilité « Oh mon Dieu, que va-t-il se passer ?» Pendant ce temps, mon ami lit avec détachement, sans se préoccuper de ce qui nous attend. J'ai beau lui parler sans cesse, elle ne stresse pas. Enfin, si, mais justement, parce que je l'empêche de lire. Voilà le moment tant attendu et pourtant si redouté. Nous approchons du tunnel sous la Manche. La tension est à son zénith, chez moi en tout cas. Le speaker réitère avec force et conviction sa promesse d'une traversée inoubliable, un voyage initiatique dans l'inconnu. À ce moment précis, je me souviens en plus d'une remarque de mon neveu Emmanuel, celui-là même qui avait pris l'avion 30 ans plus tôt avec moi, à qui j'ai proposé de retourner à Londres et qui m'a répondu « Par le tunnel sous la Manche ? Ah non, 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 jamais !» Nous entrons, la lumière du jour disparaît. L'histoire, doctement contée par Sophie, s'évanouit aussitôt. Rien. J'ai beau coller le nez à la vitre, je vois du noir, de l'obscurité, mais pas l'amorce d'une goutte d'eau. Les poissons ? Aucun. Les requins, ils ont bien mieux à faire dans les océans Indien ou Pacifique. Mais pourquoi, grand Dieu, viendrait-il se cailler dans les mers du Nord ? La traversée dure environ 30 minutes. Nous retrouvons la lumière du jour. Muriel peut enfin reprendre sa lecture. Mais alors, comme disait Richard Virenque, « On m'aurait menti ? Je n'étais pas dans un aquarium ?» Notez bien que l'aquarium de Camille Saint-Saëns est bien plus animé que le train sous le tunnel. Nous voici arrivés à la gare de St. Pancras, sans avoir vu l'ombre d'un poisson, mais beaucoup de tunnels répétitifs dans la partie anglaise du voyage, ce qui gâche la vue des paysages anglais verdoyants. À la gare, notre première initiative est d'acheter une Oyster Card. À 7 livres l'unité, elle permet de voyager sur tout le réseau de transport londonien. Nous la chargeons d'un premier forfait de 35 livres, que nous complétons avec un ajout de 5 livres en fin de séjour. Nous sommes restés 5 jours à Londres. Les déplacements coûtent cher dans la capitale anglaise, c'est vrai. Chaque fois que possible, il est préférable de prendre le bus. Outre le charme des Double Deckers Red Buses, le tarif est unique à 1,75 livre le trajet d'une heure. Pour le métro, il faut payer selon la distance parcourue. Nous arrivons à Shepherd's Bush, notre lieu de résidence pour les 5 jours. À la station de métro, nous empruntons un escalator. Plus à l'aise, je me cramponne souvent côté gauche sur les escalators. Oui, mais là, je me fais disputer car les Anglais ont des principes, certes contradictoires, mais des principes quand même. Autant en voiture, ils roulent à gauche, mais dans les escalators, ils roulent à droite et doublent à gauche. Je bloque donc la circulation. Lorsque le monsieur voit mon handicap, il se confond en excuses. Oh, les Anglais ont le sens de la diplomatie, avec ou sans chapeau melon. Nous arrivons à l'hôtel et profitons d'un petit repas dans la pizzeria à côté. On se promet de ne pas y retourner car c'est moyen moins. Nuit paisible et le lendemain, en route pour la découverte du Londres, contemporain et historique.
Thank you.
Un séjour à Londres passe nécessairement par la visite des grands classiques. Ainsi, nous avons vu Westminster Abbey, le Tower of London et Buckingham Palace. Westminster Abbey est l'un des monuments les plus prestigieux de Londres et un véritable sanctuaire de l'histoire britannique. Fondé au Xe siècle par des moines bénédictins, l'abbaye fut reconstruite au XIIIe siècle par Henri III dans un style gothique splendide. Depuis Guillaume le Conquérant, en 1066, presque tous les souverains britanniques y ont été couronnés. C'est ici que le Royaume-Uni célèbre ses mariages, ses funérailles nationales et ses grands moments historiques. Mais ce qui fascine tout autant, ce sont les tombeaux. L'abbaye est un véritable panthéon où reposent rois, reines, scientifiques, écrivains et hommes d'État. On y trouve par exemple la tombe d'Élisabeth Ière, la reine vierge, voisine de celle de sa demi-sœur et rivale, Marie Stuart. La vue de ces tombeaux est l'objet d'un débat à la fois enflammé et dans la plus pure tradition diplomatique anglaise avec mon amie Muriel. Elle soutient et vénère Marie Stuart, reine d'Écosse, tandis que j'adore la reine Élisabeth Ière. Ce point de désaccord dès le premier jour appelle une courte explication de texte. Marie l'Écossaise, catholique et héritière des Stuart, revendiquait aussi le trône d'Angleterre, ce qui faisait d'elle une rivale directe d'Élisabeth Ière. Soutenue par la France et par le pape, la petite Marie incarnait l'espoir d'un retour du catholicisme en Angleterre. Élisabeth, protestante, voyait en elle une menace pour sa légitimité et la stabilité du royaume. Après avoir trouvé refuge en Angleterre, Marie fut emprisonnée près de 20 ans. Finalement accusée de complot contre la souveraine Élisabeth, elle fut exécutée en 1587. Muriel soutient la thèse suivante. Marie Stuart était catholique, Élisabeth ne l'était pas. Cette dernière a fait assassiner tous ses opposants. Elle ne partageait pas le pouvoir. Elle était bien en cela l'héritière de son père Henri VIII. Muriel note tout de même un côté positif. Élisabeth Ière était mécène des arts et soutenait Shakespeare. Pour ma part, je pense que la reine Élisabeth Ière n'a pas eu la tâche facile. Elle a hérité d'un royaume mis à feu et à sang par sa sœur Mary Tudor. Pour calmer l'agitation excessive de ses sujets qui sortaient d'une période trouble, elle a choisi la stabilité et une forme de tolérance vis-à-vis des différentes religions. Évidemment, elle préférait l'anglicanisme et aimait plus que tout le pouvoir. Elle ne supportait pas un instant l'idée de se le faire confisquer. C'est ce qui la rapproche de son père. Chacun se fera sa propre opinion de cette période historique et le débat reste ouvert. À l'abbaye de Westminster, Henri VII et son épouse Elizabeth d'York reposent dans une chapelle richement décorée, chef-d'œuvre de l'art gothique tardif. Dans le Poet's Corner, la littérature est à l'honneur. Chaucer, Dickens, Tennyson, Kipling et bien d'autres y sont enterrés ou commémorés. Newton et Darwin reposent aussi ici, rappelant que la science occupe une place centrale dans la mémoire britannique. Chaque tombeau raconte une page de l'histoire nationale. J'étais ravi de voir le tombeau du musicien Henry Purcell. L'architecture ajoute à cette atmosphère. Voûtes vertigineuses, vitraux colorés, stalles finement sculptées. Le trône de couronnement, vieux de 7 siècles, est toujours utilisé pour les intronisations. La salle de couronnement est belle aussi. Avec son mobilier en bois et ses petites lampes rouges, qui procure un sentiment de magnificence. Nous avons pu l'observer en montant dans les galeries de l'abbaye. Encore plus beau vu d'en haut, avec le seul regret de n'avoir pu photographier. Westminster Abbey n'est pas seulement un monument, c'est un récit de pierre où se croisent pouvoir, foi, mémoire et culture. Les visiteurs ressentent à la fois la solennité d'un lieu de culte et l'émotion d'un musée vivant. Et plonge dans 1000 ans d'histoire et de mémoire collective. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle demeure aujourd'hui un symbole de l'identité britannique. Et puisque nous évoquons Westminster, vous connaissez ma passion pour le pays de Galles. Mais savez-vous que la pièce chantée en gallois lors du couronnement de Charles III était Coronation Kyrie, spécialement composée pour l'occasion par Paul Melle, un compositeur gallois contemporain. C'était la première fois qu'une œuvre en langue galloise était interprétée lors d'un couronnement britannique. Je vous propose de l'écouter, chantée par Bryn Terfel.
Trigger Har Glwys Trigger
La Tour de Londres est l'un des monuments les plus redoutés d'Angleterre, symbole à la fois du pouvoir royal et teinté de mystère. Édifiée par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, elle a servi successivement de forteresse, de palais, de prison et même de ménagerie. Le cœur du site est la White Tower, imposant donjon normand, qui abrite aujourd'hui une impressionnante collection d'armures royales. Parmi les lieux incontournables, il y a les joyaux de la couronne conservés dans la Jewel House. Couronne, sceptre et l'orbe royal fascinent les visiteurs et le parcours de visite est facilité par une déambulation sur des tapis roulants lents, ce qui améliore nettement la fluidité. La chapelle Saint-Pierre aux Liens est le lieu de sépulture de nombreuses figures historiques, dont Anne Boleyn et Catherine Howard, épouse d'Henri VIII. Les murailles et les tours de guet offrent une plongée dans l'histoire militaire et des vues magnifiques sur la Tamise. La tour sanglante rappelle les disparitions tragiques des jeunes princes Édouard V et Richard, probablement assassinés au XVe siècle. Le Torture at the Tower Exhibition évoque les instruments de supplice utilisés contre les prisonniers. Un autre supplice pour moi, du fait d'un accès rendu impossible à cause d'escaliers en colimaçon à marche très étroite. Dans The Medieval Palace, on peut découvrir la reconstitution des appartements royaux du Moyen-Âge. Les visiteurs croisent aussi les célèbres Yeoman Warders, surnommés les Beefeaters, gardiens traditionnels de la tour. Ils sont d'ailleurs très aimables et aidants chaque fois que possible. Aujourd'hui, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Tour de Londres attire des millions de visiteurs et reste un haut lieu de mémoire où se croisent la légende, l'histoire et l'imaginaire collectif. C'est sans doute le monument londonien où l'on ressent le plus intensément le poids du temps et du pouvoir. À la Tour de Londres, il y a aussi les corbeaux du site, dont la légende veut que la monarchie tombe s'ils s'envolent. Ils veillent toujours sur la forteresse. Ils ne sont pas très gracieux. L'un d'eux n'a eu de cesse de me gronder alors que je lui susurrais des cui-cui, bousi-bousi et autres onomatopées, marque de mon admiration pour son beau plumage. Ingrates ces bestioles, franchement. Oh, quelle plaie! On en trouve même à Dijon, ces oiseaux-là.
Je ne voudrais pas te contrarier, et encore moins t'inquiéter, mais celui-ci a l'accent anglais.
Mais, Ellie, mais tu as raison. Il a profité d'un moment d'inattention pour rentrer dans ma valise, au moment du retour. Je suis étonné qu'il n'ait pas pris peur dans le train sous la Manche.
Ben, tu m'as dit que le chef de train n'a pas annoncé l'entrée dans le tunnel au retour.
Ah, c'est pourtant vrai. Eh ben, je n'ai pas fini d'avoir la tête cassée avec cet animal. Allez, pour me distraire, je vais raconter la visite à Buckingham Palace. Oui, Buckingham Palace, c'est la résidence officielle du souverain britannique à Londres depuis 1837, sous le règne de la reine Victoria. Avec ses 775 pièces, dont les célèbres salles de réception, il reste le centre de la vie monarchique. La relève de la garde, spectacle haut en couleur, attire chaque jour des foules de visiteurs. Nous y avons échappé, nous n'étions pas là le matin. Une partie du palais, notamment les state rooms, s'ouvre au public en été. Ce sont les salles de réception officielles, richement décorées dans le style néoclassique. Elles accueillent cérémonies, banquets et audiences royales tout au long de l'année. Parmi elles, la throne room et la ball room se distinguent par leurs plafonds ornés et leurs lustres majestueux. Les visiteurs peuvent admirer peintures, tapisseries et mobilier d'époque, témoins du goût et du pouvoir royal. L'accès est limité à certaines périodes, généralement en été, offrant un aperçu exceptionnel de la vie de la monarchie. Symbole de la monarchie britannique, Buckingham incarne à la fois tradition et continuité du pouvoir royal. Alors nous brûlions d'envie d'être invités à une tea party avec le roi Charles III et sa bien-aimée Camilla en seconde noce. La reine consort quand il pleut. Oh, Fred, quel humour! Malheureusement, et c'est toujours comme ça, il aura fallu nous contenter d'une visite partielle et payante du palais. Très bel endroit où les dorures succèdent aux dorures. La salle de bal avec le trône du monarque, de très beaux tableaux de maîtres, du mobilier à la marqueterie splendide. Oh, j'aurais bien rapporté un de ces meubles chez moi, mais impossible. Un seul bagage est autorisé dans les trains. Oh, vraiment, la visite du palais vaut le détour. Nous avons même eu l'immense privilège de faire pipi dans les toilettes dorées et le gel lavant pour les mains fleurait bon l'été. Rendez-vous compte, un tel privilège ne se produit pas tous les jours. Nous avons enfin vu un bodyguard se dégourdir les jambes à pas cadencés et avec des hurlements que seul un initié peut comprendre. Allez, pour clore ce chapitre sur la royauté, je vous propose d'écouter Crown Imperial de William Walton, interprété par The Bands of Her Majesty Royal Marines.
Thank you.
À Buckingham Palace, nous aurions pu aussi nous offrir un tour dans la cour du palais, le séant posé dans un véhicule électrique de type voiturette de golf à 5 places. Nous sommes arrivés trop tard en fin d'après-midi pour cela et les mamies avaient déjà pris le véhicule d'assaut. Bon, nous n'aurions pas alors eu l'immense honneur de fouler les tapis et le parquet grinçant de la salle du trône dans le palais. Et puis, de toute façon, Charles et Camilla étaient absents, sans doute à Balmoral ou à Windsor. Notre escapade à Londres nous a conduit vers des endroits à la fois touristiques et originaux, parfois même exotiques. Ainsi, on ne pouvait pas se dispenser d'une balade à Covent Garden, un endroit animé et emblématique de Londres, situé dans le West End. À l'origine, c'était un marché de fruits et légumes fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui transformé en espace culturel et commercial. Son cœur est la célèbre Piazza, avec sa halle couverte, abritant boutiques, restaurants et cafés. On y trouve un mélange d'enseignes de luxe, d'artisanat et de petits marchés thématiques. Covent Garden est réputé pour ses spectacles de rue, avec des musiciens, des magiciens et des artistes. Lorsque nous sommes passés par là, se tenait un joli concert africain avec des danseurs, un spectacle à la fois rythmé et coloré. Le quartier est également un haut lieu du théâtre londonien à proximité du Royal Opera House. L'architecture victorienne de la halle et les ruelles pavées lui confèrent un charme unique que j'ai eu grand plaisir à revoir. C'est un lieu idéal pour flâner, mêlant histoire, culture et modernité. On y croise autant les touristes que les Londoniens venus se détendre. Covent Garden incarne l'énergie cosmopolite et artistique de Londres. Mais il n'est pas le seul. Une autre de nos balades nous a amenés à Little Venice. Là, nous avons embarqué sur un bateau au niveau de Bloomfield Road, près du pont de Warwick Avenue. Depuis Little Venice, on remonte le Regent's Canal en direction de Camden Lock. Même si nous avons vu quelques belles maisons à l'architecture somptueuse, nous sommes quelque peu restés sur notre faim. Certains autres passages du canal ne sont pas très beaux, et nous avons aperçu juste quelques animaux du zoo de Londres. Pourtant, la surprise était au bout du voyage. Naïvement, je pensais que le bateau faisait une grande boucle et nous ramenait au point de départ. Que nenni, nous avons débarqué à Camden Market. Et alors là, nous avons beaucoup aimé. Un moment exotique, coloré, cosmopolite, animé, très touristique aussi, mais qui donne l'impression d'être ailleurs. Une musique des années 80, des échoppes aux parfums vintage, aux boutiques de luxe, on trouve de tout. Des petits sentiers abrités du soleil par un toit constitué de parasols retourné et très coloré. Je garde un très bon souvenir de mon passage à Camden Market et voici un petit brin d'histoire sur l'endroit apprécié, très apprécié. Camden Market est l'un des marchés les plus emblématiques et animés de Londres. Né dans les années 1970 dans d'anciens entrepôts et écuries, il a grandi au fil des décennies pour devenir un vaste labyrinthe de stands et d'aller où respire la créativité. Les amateurs de street food sont comblés, avec une incroyable diversité de cuisines du monde à déguster au bord du canal. Camden, c'est aussi une âme musicale. De nombreux clubs ont vu naître ou passer des groupes légendaires du rock et de la scène alternative. Le quartier reste indissociable d'Amy Winehouse. Elle y a vécu. Des fresques et hommages rappellent encore sa présence, donnant au lieu une dimension à la fois vibrante et chargée d'émotions. La contre-culture punk, gothique et underground continue de se refléter dans les boutiques et dans l'énergie du marché. Camden Market est bien plus qu'un lieu de shopping. C'est une expérience sensorielle où se mêlent odeurs, sons et couleurs.
Care his dick way.
À l'heure où se déversent des torrents de haine dans les rues de Londres et aux quatre coins du monde, avec de sombres individus qui prônent le repli sur soi, cela fait du bien d'écouter amis et de visiter des quartiers comme Camden. D'ailleurs, à Camden et ailleurs à Londres, on aime la couleur café sur des airs d'arabesque.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds qui se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur.
J'évoquerai bientôt le British Museum. Avant, pour sortir des sentiers battus, je veux vous parler du Sir John Soane's Museum. Situé à Lincoln Inn Fields, au cœur de Londres, vous ne le trouverez pas dans les dépliants touristiques. Il s'agit d'une maison-musée ô combien originale. Le Sir Johnson's Museum fut la résidence de l'architecte Sir John Soane, 1753-1837, à qui l'on doit notamment la Banque d'Angleterre. Passionné de collection, Soane a transformé sa demeure en un cabinet de curiosités foisonnant. On y découvre des antiquités égyptiennes, romaines et grecques, des sculptures, des peintures et des maquettes d'architecture. L'un des trésors majeurs est le sarcophage de Séti Ier, rapporté d'Égypte au XIXe siècle. Les murs sont recouverts de toiles de maître, dont des œuvres de Hogarth, Turner et Canaletto. L'originalité du musée réside aussi dans ses espaces étroits, ses miroirs et jeux de miroirs, ses jeux de lumière bien pensés par Soane lui-même. C'est ce que j'aime par-dessus tout. Une foison d'objets dans un lieu si exigu. Chaque nouvelle pièce, chaque nouveau couloir, chaque nouveau recoin offre son lot de surprises. À sa mort, l'architecte légua sa maison et ses collections à la nation, à condition qu'elle reste intacte. Le musée est gratuit. Nous étions une dizaine de visiteurs le samedi matin, en arrivant tôt car l'attente peut être longue vu l'exiguïté des lieux. Après ce joli détour, nous sommes partis au British Museum. Notre visite était ciblée, la pierre de Rosette et la frise du Parthénon. Découverte en 1799 en Égypte par un soldat de l'expédition de Napoléon, la pierre de Rosette date de 196 avant Jésus-Christ. C'est une stèle portant un décret du roi Ptolémée V qui célèbre sa majesté et les bienfaits qu'il porte sur l'Égypte. Son texte est gravé en trois écritures. Hiéroglyphes, démotiques et grec ancien. Alors l'écriture démotique, c'est une écriture simplifiée et populaire des hiéroglyphes. Cette triple inscription a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Conservée au British Museum depuis 1802, elle est l'une des pièces les plus visitées du musée. D'ailleurs, pour avoir la chance de l'admirer, je peux vous le dire, il faut jouer des coudes. Alors toujours avec diplomatie, cela va sans dire. Et puis, il y a ce chef-d'œuvre de l'art grec classique, la frise du Parthénon. Réalisée au 5e siècle avant notre ère, sous l'impulsion de Périclès, elle ornait la cella du grand temple d'Athènes, dédiée à la déesse Athéna. Longue de 160 mètres, elle déployait une scène majestueuse. La procession des Panathénées, grande fête religieuse et civique de la cité. Cavaliers, chars, porteurs d'offrandes, prêtres et musiciens y avançaient dans un défilé solennel. Au centre, Athéna recevait le peplos, vêtement sacré, tissé par les jeunes filles de la ville. Ce décor sculpté, attribué à Phidias et à son atelier, incarne l'idéal grec de beauté, d'équilibre et d'harmonie. Mais il témoigne aussi de la fierté d'Athènes à son apogée, au moment où la cité se voulait modèle pour le monde grec. Aujourd'hui, la frise est au cœur de débats patrimoniaux, certains fragments étant conservés au British Museum, d'autres à Athènes. Elle continue ainsi de faire dialoguer l'art, l'histoire et la mémoire collective. Ainsi se termine cette première partie du carnet de voyage à Londres, chères auditrices et chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous pour le second volet dans le numéro 9 d'Histoire d'Outre-Manche. En attendant, je vous souhaite le meilleur et de bons moments sur Radio Shalom Bourgogne. Alors, à très vite !